Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 avril 2017, en direct de Washington, Idrissa Seduya et Anne Albertson. Bonjour, on commence Anne avec les titres.
Au Mali, formation du gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Au Burkina Faso, relance de la controverse sur l'affaire Ousmane Guiro, l'ancien directeur général des douanes.
Et en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle va examiner la requête pour un vote à bulletin secret concernant la motion de défiance contre le président Jacob Zuma.
En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, a été arrêté hier par la police.
Et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson doit rencontrer aujourd'hui à Moscou son homologue russe, Sergei Lavrov.
Et ne manquez pas, bien sûr, notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal. 35 membres, 8 femmes, 10 entrants et 25 ministres de l'ancienne équipe, telle est la composition du nouveau gouvernement malien dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Dans cette nouvelle équipe, il y a des leaders des partis politiques, des représentants des organisations de la société civile et des femmes leaders, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré. Nous aurons tout à l'heure Kassim Traoré. En attendant d'autres nouvelles, le nombre d'enfants utilisés par le groupe djihadiste Boko Haram dans des attaques kamikazes a fortement augmenté et les armées de la région du lac Tchad continuent à les maintenir en détention pour obtenir des informations sur le conflit. C'est alarmé hier l'UNICEF. C'est la pire utilisation possible des enfants dans les conflits, a expliqué Marie-Pierre Poirier, directrice de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, alors que le Nigeria se prépare à commémorer l'enlèvement des lycéennes de Chibok il y a 3 ans. Au Burkina Faso, polémique suite à un article de presse diffusé sur les réseaux sociaux. Elle porte sur la dissipation par la justice d'une somme de 900 millions de francs CFA compris dans une saisie de numéraire auprès de l'ancien directeur général des douanes burkinabé Ousmane Guiro. Ce dernier est jugé depuis 2011, notamment pour fait de corruption. Le procureur général Laurent Poda est monté au créneau hier pour expliquer qu'il s'agissait plutôt de la réintroduction de la totalité de l'argent saisi dans le circuit financier, car si les conditions de détention durent longtemps, les billets peuvent se retrouver détériorés du jour au lendemain. Et c'est une citation de Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon. De toute évidence, nous faisons face à des incidents techniques. Ce que nous disait Issa Napon dans ce reportage, c'est que des numéraires censés être sous scellés ne le seraient plus, selon le journal Le Soir, qui levait le lièvre il y a quelques jours. Le journal a accusé sur sa page Facebook la justice d'avoir soustrait une partie de l'argent revenant à un prévenu, ce qui a déclenché la nervosité du procureur général, qui a tenu à être clair sur cette nouvelle affaire. Pour Laurent Poda, en attendant le dénouement du procès du douanier Ousmane Guiro, la somme des 900 millions dont il est question n'est pas allée dans des poches indélicates, comme l'écrit ou pourrait le laisser penser. Laurent Poda, qui est procureur général du Faso, a dit « Je ne sais pas si c'est parce que c'est le parquet qui a ordonné la réintroduction dans le circuit financier qui pose problème. Franchement, moi j'ai pris ma décision et j'ai dit que j'assume. » Le procureur souhaitait ne pas laisser la rumeur prendre le pas sur la réalité. L'argent en question est la propriété d'Ousmane Guiro, ancien directeur général des douanes, épinglé en possession de près de 2 milliards en numéraire et condamné à la prison avec sursis en 2015 pour corruption et violation de la législation douanière. Après une première décision judiciaire favorable aux prévenus, le parquet s'était pourvu en cassation, gelant la remise des biens du prévenu. Le parquet veut officiellement ou vient officiellement d'annoncer un fait, l'argent gardé sous scellé depuis 2011 circule bien déjà dans le circuit monétaire en attendant la reprogrammation du dossier à une date non encore définie. Et c'est ce que nous disait Issa Napon de Ouagadougou. En RDC, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala a déclaré hier à l'AFP qu'il comptait financer avec des sources internes les élections pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Mais M. Tshibala ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un appoint qui viendrait des partenaires extérieurs. Il considère ces élections comme la priorité des priorités de son gouvernement, a-t-il souligné. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a accepté d'examiner une requête des partis d'opposition pour un vote à bulletin secret de la motion de défiance déposée contre le président Jacob Zuma. Jacques Aristide.
Le débat sur cette motion de défiance est fixé au 18 avril devant le Parlement. Les partis d'opposition croient qu'elle aura plus de chances de passer si le vote est anonyme. Vu la dissidence au sein du parti au pouvoir, l'ANC, provoquée par le récent remaniement ministériel très controversé. Sur la demande de vote à bulletin secret, la Cour constitutionnelle n'a pas fourni de date d'audience, mais a demandé aux partis de présenter leurs arguments écrits d'ici le 21 avril, ce qui amène des opposants à réclamer le report du vote au Parlement. L'ANC majoritaire a fait savoir qu'il voterait contre la motion. L'opposition a appelé ce mercredi à une journée nationale d'action. Elle a besoin de 65 à 70 votes de députés ANC pour renverser le rapport de force. Dans une lettre ouverte, l'ancien président Thabo Mbeki demande aux parlementaires d'être la voix du peuple et non celle de leur propre parti politique. Jacob Zuma célèbre ses 75 ans aujourd'hui à Soweto. Il a déjà été plusieurs fois la cible de motion de censure, mais il y a toujours survécu.
Comme promis, nous revenons sur le Mali où 35 membres, 8 femmes, 10 entrants et 25 ministres de l'ancienne équipe. Telle est la composition du nouveau gouvernement malien dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Dans cette nouvelle équipe, il y a des leaders de partis politiques, des représentants des organisations de la société civile et des femmes leaders. Nous retrouvons donc de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Après la longue attente, les Maliens connaissent les hommes et les femmes qui sont dans la nouvelle équipe gouvernementale. De 33, le gouvernement est passé à 35 membres, qui est composé de 10 nouveaux ministres. Parmi les ministres sortants, il y a Maître Moutaka Tall, qui était à la communication et porte-parole du gouvernement. Il est remplacé par le jeune Haruna Modibo Touré, qui devient le ministre de l'économie numérique et de la communication. Le ministre du Commerce sera aussi le porte-parole du nouveau gouvernement. Certains tenors du parti au pouvoir, les RPM, font partie de ceux qui ont quitté le gouvernement. À l'image de Maman Babi de l'emploi et de la formation professionnelle, Ousmane Kone de l'urbanisme, sans oublier Sangare Oumouba de la promotion des femmes. Sa place est désormais occupée par la présidente des organisations et ONG féminines du Mali, CAFO, à la personne de Traoré Oumoutouré. Il y a aussi des revenants, comme l'actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, Tienan Koulibaly, qui devient le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Quant à Tienan Koulibaly, qui a signé son retour, il hérite du ministère de l'administration territoriale. On peut dire que ce gouvernement qui était tant attendu n'a pas connu beaucoup de changements aux yeux des Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson doit rencontrer aujourd'hui à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. Il espère que les Russes retireront leur soutien au président syrien Bachar al-Assad après l'attaque chimique de la semaine dernière en Syrie. Ces discussions s'annoncent musclées après les échanges vifs des dernières heures entre la Russie et les États-Unis sur cette attaque imputée au régime Assad. Aucune rencontre n'est pour l'heure prévue avec le président Vladimir Poutine. Jean-Roger Bion.
Hier à Washington, le secrétaire à la Défense Jim Mattis a estimé qu'il n'y avait pas de doute que le régime de Bachar al-Assad était responsable de l'attaque chimique du 4 avril qui a fait 87 morts, dont des dizaines d'enfants dans la province rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a même, dans une déclaration qu'il a vite dû amender face au flot de critiques, estimé que Bachar al-Assad était pire qu'Adolf Hitler. Auparavant, un haut responsable de l'administration américaine s'exprimant sous couvert de l'anonymat avait accusé Moscou de semer la confusion sur le rôle du régime syrien dans l'attaque chimique présumée pour tenter de mettre en cause les rebelles ou les djihadistes de l'organisation État islamique. Un autre haut responsable américain avait par ailleurs indiqué qu'il fallait poser aux Russes la question de leur éventuelle complicité dans cette attaque. La Russie, elle, se tient à une ligne claire. Il faut regarder du côté des rebelles. L'armée syrienne ne disposant plus d'armes chimiques depuis le démantèlement de son arsenal sous supervision internationale. Vladimir Poutine s'est également moqué des États-Unis, voulant, selon lui, rejouer le scénario des fausses preuves d'armes de destruction massive en Irak en 2003, prélude à l'invasion du pays pour faire chuter Saddam Hussein.
La Minute Éco. Claire Morin-Gibault.
L'emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a enregistré une légère hausse au mois de février 2017 comparé au mois précédent, selon la direction de la prévision et des études économiques. Un accroissement porté par les créations d'emplois enregistrées dans les bâtiments et travaux publics, avec plus 3,1%, et le commerce, plus 2,6%. Les services ont enregistré une baisse de 1,8% de ses effectifs salariés sur la même période. Les chiffres préliminaires publiés hier par l'OCDE montrent une baisse de l'aide publique au développement à destination de l'Afrique. Selon nos confrères de Jeune Afrique, si leur crédit cumulé vers l'Afrique s'établissait en moyenne à 30 milliards de dollars entre 2010 et 2014, ils sont tombés à 27 milliards en 2016. En Guinée, Orange a été condamné à payer 10 250 milliards de francs guinéens, soit plus d'un million de dollars, pour exploitation frauduleuse à des fins commerciales d'une chanson de Kali Diop. La chanteuse et sa maison de production, Sukar, se sont réjouis de cette décision qui protège les droits d'auteur.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Barcelone encore malmené en Ligue des Champions en Europe hier soir.
Oui, une défaite 3-0 sur la pelouse de la Juventus Turin. La Juventus a écrasé le FC Barcelone en quart de finale aller de cette Ligue des Champions. Paulo Dybala s'est distingué avec un doublé en début de match. Alors, le FC Barcelone va-t-il refaire le coup de la remontada lorsque les Catalans avaient éliminé le Paris Saint-Germain au tour précédent ? Réponse au match retour.
Le match Dortmund-Monaco, lui, n'aura lieu que ce soir. Nicolas, on a failli frôler le drame en Allemagne.
Oui, Idrissa, une grave attaque à l'explosif a touché le bus de l'équipe de Dortmund, blessant au moins un joueur. Le quart de finale a été reporté à ce mercredi en fin d'après-midi. Que s'est-il passé peu après le départ du bus du Borussia de son hôtel en direction du stade? Eh bien, trois explosions se sont produites sur la route principale où il circulait à une dizaine de kilomètres du Signal Iduna Park. Une enquête est en cours.
Et ce soir, la suite des quarts de finale?
L'affiche, c'est Bayern Munich-Real Madrid. Le buteur du Bayern, Robert Lewandowski, touché à l'épaule, est incertain pour ce quart de finale. Annoncé hier de l'entraîneur munichois Carlo Ancelotti devant la presse, le buteur polonais souffre d'une contusion à l'épaule depuis le match de championnat contre Dortmund. C'était samedi dernier. L'autre match ce soir, Atlético Madrid-Leicester.
Le public boude-t-il la Coupe de la Confédération en Russie?
Oui, une faible partie seulement des billets pour la Coupe des Confédérations en Russie a été vendue. C'est ce qu'a déclaré Moscou hier, reconnaissant que ce manque d'intérêt pour la compétition était problématique. On rappelle, Idrissa, que la Coupe des Confédérations se déroulera en Russie du 17 juin au 2 juillet 2017, un an avant la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu pour la première fois en Russie. 200 000 tickets ont été vendus, mais les organisateurs en espéraient 700 000. On le rappelle que la Coupe des Confédérations réunit 8 équipes dans le groupe A. La Russie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Mexique dans le groupe B, le Cameroun, le Chili, l'Australie et l'Allemagne. Allez Idrissa, à quelques jours des playoffs, on parle à présent des résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte et Atlanta 76-103, Oklahoma City et Minnesota 198, Denver et Dallas 109-91. De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, libération d'une trentaine de personnes interpellées lundi, alors qu'une partie de l'opposition avait appelé à une marche pacifique à la place de la marche. Kinshasa et certaines autres villes du pays ont plutôt donné le spectacle de villes mortes. Les gens sont restés chez eux. Eddie Sango, agent à Kinshasa, le numéro 1 de la police, le commissaire provincial, le général Célestin Kanyama.
Il y a eu tentative de troubles à l'ordre public et quelques personnes qui ont été interpellées au nombre de 34 ont été aussitôt libérées et après les avoir conscientisées à pouvoir respecter l'autorité de l'État et à respecter la procédure en ce qui concerne la tenue des manifestations.
Vous avez dit tentative des troubles et de l'ordre public alors que les rassemblements, une partie de l'opposition, c'est prévaut de ce que les manifestations sont autour par la Constitution.
Mais comment on va empêcher les gens qui ne se sont pas manifestés? Comment vous dites qu'on va empêcher les gens qui ne se sont pas manifestés? Il n'y avait pas eu de manifestation à travers la ville, province de Kinshasa. Aucune manifestation. La ville est restée très calme, c'est-à-dire on ne peut pas parler qu'on a eu à empêcher. On empêche ce qui existe. Ce qui n'existe pas, on ne l'a pas empêché.
Selon les images que l'opposition met sur les réseaux sociaux, la police avait quadrillé la ville et il y avait même des menaces la veille du commandant de la ville.
Non, quelle menace? Il n'y avait pas eu de menace. Il n'y avait rien qui s'est passé à travers toute la ville de Kinshasa. Tout est resté calme et il n'y avait pas eu de manifestation. Il n'y avait même pas de manifestation.
Une partie du rassemblement appelle à d'autres manifestations à partir de demain et plus tard. Est-ce que la police prévoit d'encadrer ces manifestations avec des moyens qui seront proportionnels?
Non, il ne faut pas nous amener sur un terrain qui ne nous concerne pas. Nous, comme agents de l'ordre, nous, comme police, c'est par rapport à l'autorité populaire administrative que nous agissons. Quand vous avez l'autorisation de la part de l'autorité politique administrative, nous vous encadrons. Et si vous n'avez pas cette autorisation-là, je crois que à travers tous les pays du monde, la police ne peut pas agir en dehors de l'autorité politique administrative.
La Constitution congolaise prévoit qu'on informe l'autorité. En fait, une autorisation n'est pas requise. Est-ce que déjà le fait d'avoir informé les autorités de la ville ne suffisait pas?
Moi, je n'entre pas sur ce terrain-là. Je vous dis tout simplement, la police à travers le monde entier dépend de l'autorité politique administrative. Quand l'autorité politique administrative autorise n'importe quelle manifestation, nous encadrons. Quand l'autorité politique administrative estime que par rapport à d'autres activités à travers la ville, que n'importe quelle manifestation qui peut être prévue, peut être reportée ou une date ultérieure, il faudrait que les gens s'inclinent.
C'était le général Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police à Kinshasa.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, les partis d'opposition se prononcent sur la crise anglophone. Ils appellent à la mise en œuvre de la décentralisation pour résoudre cette crise. De Yaoundé, les explications d'Emmanuel Jules Ntap.
En l'espace d'une semaine, les formations politiques majeures de l'opposition au Cameroun ont clairement pris position sur la crise anglophone. La sortie la plus récente étant celle des parlementaires du Social Democratic Front, députés et sénateurs. Jean Tchomelou, le président du groupe parlementaire du SDF au Sénat, résume les solutions proposées par son parti pour décrisper la situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun.
La libération de tous ceux qu'on a pu arrêter par rapport à la crise anglophone, l'ouverture d'un dialogue national sur les problèmes de notre pays, la convocation d'une conférence constitutionnelle pour réfléchir de la forme de l'État dont nous voulons pour notre pays et l'instauration du fédéralisme qui est pour nous la meilleure forme de gouvernance dans notre pays.
L'approche du MRC sur la question anglophone a été rendue publique par son président Maurice Kamto. C'était au cours d'une conférence de presse. L'ancien ministre du gouvernement Biya, devenu opposant, a souligné la nécessité d'ouvrir une réconciliation nationale sur la crise anglophone. Explication avec Sosten Médard-Lipot, conseiller à la communication du président du MRC.
Ce dialogue national consistait d'abord à se demander pardon. Au-delà du pardon, il fallait maintenant trouver la solution à la crise anglophone, des solutions pérennes.
Anissaï et Canet est le président du Manidem, une formation politique qui défend l'idéologie nationaliste basée à Douala. Sur la crise anglophone, le Manidem pose sur la table l'urgence pour le Cameroun de mettre en marche la décentralisation par région.
Et nous avions proposé une décentralisation très poussée avec 4 régions géographiquement homogènes et économiquement viables. Et en soi-disant, justement, l'anglais comme une langue de communication avec l'étranger qui amènerait un développement harmonieux de notre pays.
Sortie opportuniste ou pression de l'opposition camerounaise sur Paul Biya, ces prises d'opposition sont diversement analysées par les politologues camerounais. Simon Roland et Kodom Veng, chercheur en sciences politiques à la Fondation Paul Angoela à Yaoundé.
Le Social Democratic Front veut se positionner comme étant le seul interlocuteur légitime dans la partie anglophone. Le MRC voudrait se sympathiser de la cause des personnes qui ont été arrêtés.
Jusqu'ici, seul le président Paul Biya prend les décisions sur la sortie de crise en zone anglophone. Des décisions qui tardent à ramener la sérénité nécessaire en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jouloutap, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la bataille est lancée pour destituer le président Jacob Zuma. Pour y arriver, l'opposition spécule sur un vote secret au Parlement concernant la motion de défiance déposée contre M. Zuma. Le Mouvement pour l'Unité démocratique a saisi la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la procédure de ce vote prévu le 17 avril prochain. Soutenu par son parti, l'ANC, Jacob Zuma a déjà survécu à 4 votes similaires. Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste politique Achille Membe.
Disons que si le vote était effectivement secret, c'est-à-dire que si les parlementaires membres du parti au pouvoir, l'ANC, devaient voter en leur âme et conscience, il se pourrait effectivement que M. Zuma perde le pouvoir. Et donc le débat en ce moment se situe effectivement à ce niveau, avec une grande partie de l'opinion publique qui voudrait que le vote soit secret, et de l'autre côté, l'ANC qui ne veut absolument pas entendre parler d'un vote secret. Et donc, la survie de M. Zuma au pouvoir dépend pour l'instant du loyalisme des parlementaires membres de l'ANC qui sont de ce fait invités à voter comme un seul homme au profit de M. Zuma.
Il y a un parti politique qui a saisi...
Un recours auprès de la Constitution, la Cour constitutionnelle.
Pour autoriser justement son vote secret, mais on sait que antérieurement la Cour suprême avait rejeté cette sollicitation.
Cette demande, tout à fait. Et donc, il y a un précédent. La Cour constitutionnelle n'a pas du tout voulu s'immiscer dans les règles procédurales du Parlement. Il est possible que la sollicitation faite par le parti de M. Holomissa soit rejetée une fois de plus. Je crois que les partis de l'opposition sont tout à fait conscients du fait que ce vote de défiance n'aboutira pas du tout au renvoi de M. Zuma. Ces partis veulent tout de même marquer fortement la désapprobation du peuple sud-africain ou d'une grande partie du peuple sud-africain face à la gestion de M. Zuma, notamment qui a trait à la corruption, au changement ministériel il y a quelques semaines.
M. Zuma bénéficie donc du soutien de son parti et le chef du Parlement qui ne veut pas de ce vote secret. Quel est le risque des députés de l'ANC pour les prochains rendez-vous?
Ils s'excluraient eux-mêmes du parti si jamais ils votaient en même temps que l'opposition en faveur de la déposition de M. Zuma. Pour le moment, il y a une double démarche. Il y a une démarche parlementaire qui vise à censurer M. Zuma. Et il y a une démarche propre aux organisations de la société civile qui sont en train de se mobiliser pour faire monter la pression sur l'ANC et l'obliger à se séparer de M. Zuma.
C'était Achille Membe, l'analyste politique, joint à Pretoria.
Washington Forum ce jeudi, on décrypte la polémique autour de la CPI. Après le Burundi, l'Afrique du Sud menace de partir. Jamais aucun pays dans le monde n'a encore quitté la Cour pénale internationale. Premier tribunal international permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À ce jour, seuls 123 États adhèrent à ce traité. Sur le continent africain, la politique de deux poids, deux mesures est régulièrement critiquée. Pourquoi ce sentiment d'une justice à deux vitesses? Quelles sont les limites de la CPI? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dénoncé hier l'existence de véritables marchés d'esclaves en Libye où les immigrants ou les migrants sont vendus. Au micro d'Anastasie Toudiech, les explications de Florence Kim, porte-parole de l'organisation.
Grâce à donc des témoignages de migrants qui ont été recueillis et recoupés par l'OIM, qui est présente en Libye depuis quelques mois à nouveau maintenant, on a pu révéler aujourd'hui la terrible réalité de ces migrants, de milliers de personnes en Libye. C'est-à-dire que des personnes sont désormais considérées comme de véritables marchandises et qu'elles sont vendues en place publique devant tout le monde et sans vergogne. Dès lors que quelqu'un n'a pas payé, par exemple, son passeur, elle va être vendue à quelqu'un qui aura besoin d'un service ou d'une main-d'œuvre.
Alors, le vendeur généralement est un passeur. Qui est l'acheteur?
L'acheteur peut être une personne tout à fait normale, une personne, même un entrepreneur qui a besoin sur son chantier de construction, une personne, une main-d'œuvre à bas coût, et voilà, il lui paiera uniquement la nourriture.
Combien sont vendues les personnes dont vous parlez?
Quelques centaines de dollars maximum, peut-être 200 dollars.
Et quelles sont les nationalités visées?
Nous avons essentiellement des personnes du Nigeria, de Gambie et puis du Ghana.
Est-ce qu'il y a des femmes parmi les vendues?
Écoutez, essentiellement des hommes. Tous ces faits sont basés sur des témoignages recueillis par des personnes qui ont pu fuir la Libye et ce sont essentiellement des hommes.
Ce qui veut dire d'abord c'est qu'on ne sait pas si des enfants ou des femmes sont concernés et puis surtout qu'on ne sait pas combien sont concernés.
Non, on ne sait pas, on n'a pas encore toutes ces informations.
Quelle suite pensez-vous donner à cette information?
Écoutez, tout d'abord c'est réveiller encore la communauté internationale. On ne peut pas rester non seulement pas indifférent mais bien évidemment inactif face à une telle violation des droits de l'homme. Ça ne fait qu'appuyer notre demande de devoir renforcer les capacités des autorités libyennes sur place qui ont une véritable volonté de participer à cette urgence migratoire et d'essayer de sauver des milliers de vies aussi.
Vous transmettez l'information et vous comptez sur la communauté internationale pour réagir. Quelle serait la bonne réaction?
Soutenir aussi les autorités libyennes.
Soutenir, ça veut dire financièrement?
Ça veut dire financièrement, ça veut dire matériellement, ça veut dire avec les ressources nécessaires pour que les autorités libyennes puissent faire leur travail. C'est bien évidemment si l'on considère que le flux migratoire essentiellement part de la Libye et que la Libye fait partie d'une des causes de cette urgence migratoire actuelle en Méditerranée, la Libye et les autorités libyennes doivent faire partie absolument de la solution.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.